L'histoire à contre-courant, une émission proposée par Anne Bernet.
Frédéric Morvan, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes agrégé d'histoire, médiéviste, spécialiste de l'histoire de la Bretagne, président du Centre d'histoire de la Bretagne, auteur de Bretagne, l'histoire confisquée, d'une biographie d'Huguesclin, que vous aviez d'ailleurs présentée sur cette antenne il y a quelques mois, de différents ouvrages consacrés à la chevalerie bretonne médiévale et de Breton sur Seine, un ouvrage absolument remarquable, écrit en collaboration avec Françoise Le Goaziou, qui raconte aux éditions Ouest France l'aventure souvent douloureuse, mais parfois aussi glorieuse, de la diaspora bretonne, installée en région parisienne et à Paris, ce depuis très longtemps. Frédéric Morvan, nous sommes d'emblée au cœur du sujet lorsque l'on parle de cette diaspora bretonne, c'est-à-dire ces rapports toujours compliqués entre une Bretagne en quête de son autonomie, voire de son indépendance, et la France qui la considère comme l'une de ses provinces. Dans ces conditions, qu'est-ce qui peut bien attirer les Bretons vers la capitale d'un pays perçu souvent comme étranger, et eux-mêmes, comment y sont-ils reçus ?
Alors pour les Plouques, et ça remonte à très très loin, très 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 loin, vous avez une pièce de théâtre qui s'appelait « Les privilèges des Bretons », qui se moquait complètement des Bretons, puisqu'ils exigeaient de curer par droit pontifical les fosses communes, et donc les Bretons étaient raillés. J'ai relu ce texte, qui est un racisme impressionnant. On est à l'époque de Saint-Louis, milieu du XIIIe siècle, et la première fois où apparaît le mot « baragouin », baragouiné, vous connaissez, et bien c'est en 1391, on est au XIVe siècle.
C'était donc bien avant la commune, comme le prétendent la plupart des étymologistes.
Exactement, mais bien sûr, c'est très très vieux. Et baragouin, ça vient de bara, en breton,
le pain.
Le pain, et guin, le vin. Donc pain et vin, parce qu'il réclamait du pain et du vin, paraît-il. Et c'est 1391, la première mention dans les textes. C'est super loin, quoi. Et quand on voit Saint-Louis, c'est 1240, hein. Quand on voit la pièce de théâtre, cette pièce de théâtre, les privilèges des Bretons, mais c'est hallucinant, quoi. C'est donc depuis très 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 longtemps, depuis le XIIIe siècle et peut-être auparavant, eh bien la présence des Bretons était effective et ils étaient pas bien considérés, moqués parce qu'ils parlaient pas bien, parce qu'ils se marchaient tous entre eux, etc., etc. Tous les poncifs qui existaient et qui ont perduré jusqu'à aujourd'hui, quoi, semble-t-il. Je dirais jusqu'aux années 1950, 60, 70, 80 peut-être. Aujourd'hui, c'est différent. Bon, j'espère.
Jusqu'à un certain point, je pourrais vous citer des exemples tout à fait récents. Vous seriez très surpris.
Oui, oui, oui. Mais je ne veux pas trop savoir parce que là, mon moral va s'écrouler sinon. Je m'en doute. C'est ce qui me surprend, c'est quand j'arrive à Paris. Vous êtes breton.
Oui, ce n'est pas une tare.
Oui, vous voulez voir mon passeport, je suis aussi français, je suis désolé, mais et vous dites la même chose à un Provençal, un Auvergnat, un Alsacien, un Savoyard ?
Oh mais non, jamais, c'est justement ça la question curieuse. Pourquoi est-ce que le Bougnat Auvergnat n'a pas ce genre de problème dans le Paris du 19e ?
Il faudrait demander aux spécialistes des Auvergnats, parce que les Auvergnats...
Ah, parce que la communauté auvergnate de Paris n'a rien à envier aux Bretons.
Non, pas du tout. Ils ont le même système, le même système communautaire, de solidarité.
La même mise sur les charbonniers et sur les bistrots. Normalement, voilà, les Auvergnats devraient provoquer le même rejet.
Et c'était pas facile. Mais c'est pas, j'ai l'impression que c'est pas le même niveau social. C'est pas la même chose. Les Bretons à Paris, mais vous aviez une quantité astronomique. D'abord, ils étaient extrêmement nombreux, beaucoup plus nombreux qu'on le croit.
Est-ce qu'on a une idée des chiffres, Frédéric Morvan ?
Attendez, il faut que je me repère là-dedans. Entre 1851 et 1872, 116 000 Bretons sont arrivés à Paris. Entre 1872 et 91, 126 000. Entre 1891 et 1911, 210 000.
C'est effectivement énorme.
Et c'est énorme. Dans la Seine-Saint-Denis, dans les années 1920, les natifs des départements bretons se chiffraient en centaines de milliers.
Ça représente quelle perte pour la Bretagne ? Combien de jeunes qui partent et qui, du coup, vident la Bretagne de son meilleur sang ?
En fait, est-ce que ça vidait ? Pas vraiment. Pourquoi ? Parce que les Bretons faisaient beaucoup, beaucoup d'enfants.
Bon, c'est vrai, les familles de 8-10 enfants étaient communes, mais...
Exactement. Même à Paris, faisaient beaucoup, beaucoup d'enfants. Et donc, résultat, les pertes pour la Bretagne n'ont pas été tellement effectives. Et d'autre part, en fait, il y en avait au début, ils partaient, ils revenaient. mais progressivement, ils sont restés. Ce qui fait que... Et donc, résultat, vous avez une masse très importante. Et en plus, ils occupaient, je vous dis, les emplois de terrassiers, de maraîchers, des petits emplois, d'ouvriers, il y avait énormément. Et puis, bien sûr, pour les femmes, nourrices, domestiques, bonnes, prostituées.
J'étais très étonnée, d'ailleurs, en vous lisant, de constater à quel point l'image de la domestique bretonne... Bon, c'est Bécassine, me direz-vous, Bécassine, qui était maudite de tout breton digne de ce nom. On ne lisait pas les albums de Bécassine.
Là, il y a un film qui est sorti sur Bécassine qui n'a pas du tout bien passé en Bretagne. Ça s'est pas très bien passé. Le film, bon, j'ai regardé à la télé, hein. Voilà, bon, c'est bien fait, et bon, peu importe, il faut oublier. Et donc, résultat, mais rien que Bécassine, oh là 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 là. Oh.
Ah, mais non, mais bon, mon grand-père interdisait la lecture de Bécassine.
Ah bon?
Purement et simplement.
Moi, j'ai eu droit, j'ai trouvé. À l'origine, Bécassine, c'est une picarde.
Bécassine est picarde à l'origine?
À l'origine, oui, à l'origine, c'est une picarde qui a été transformée en bretonne.
Ah bon, vous apprenez quelque chose. Anaïk oui. Labornet était picarde à l'origine, c'est assez drôle.
Le dessin, c'est ce que on a découvert, que c'est qu'à l'origine, elle était picarde, et puis ça a été transformé en 1905, je crois, ou 1900, en bretonne.
Curieuse métamorphose,
oui,
qui prouve une fois de plus cette espèce de racisme.
Ça a très très bien marché, mais ça a donné une image totalement tronquée, totalement... Voilà. Mais bon, Bécassine, elle est quand même intelligente. Hein,
elle est pas mais elle est loin d'être sotte.
Oui, elle est, voilà, et puis même...
Puis elle est d'un dévouement, d'une bonté, d'une générosité. C'est une fille bien, si on y réfléchit.
Et c'était basé sur une réalité. On avait confiance dans les Bretonnes.
Mais oui, elles étaient dures à la tâche, pieuses et...
Et voilà, pieuses pour certaines, mais il ne faut pas quand même exagérer.
Mais ce qui est très intéressant, c'est quand vous racontez, en effet, toutes ces pauvres filles qui débarquent à Montparnasse, qui n'ont pas la moindre idée de ce qui se passe à Paris, qui se retrouvent sur le trottoir.
Oui. C'est impressionnant, hein.
Bah, c'est assez terrifiant.
C'est impressionnant, c'est terrifiant. En 1926, il y a Geneviève de la Blinière qui vient et qui, c'est elle qui va à la prison de Saint-Lazare et elle découvre que, je crois que c'est un quart des prostituées enfermées dans cette prison étaient d'origine bretonne, quoi.
Et je m'aperçois aussi que la Bretagne, qui passait pour être une terre peu criminogène, il y avait relativement peu de crimes en Bretagne, les hommes qui montent à Paris ont tendance à se retrouver aussi dans la délinquance.
Complètement. On ne connaît pas très 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 bien, hein, parce que c'est quand même des sujets particulièrement... on essaie d'oublier certaines choses, quoi. Mais oui, dans les bordels parisiens, dans les... Oui, il y avait beaucoup de Bretons. C'est logique pour aborder les Bretonnes qui arrivaient de la Bretagne.
Ah, il valait mieux un pays, oui.
Et le résultat, il y avait les souteneurs. Et donc, Françoise a... puisqu'elle était présidente de la mission bretonne de Paris, donc elle a eu entre les mains les archives de la paroisse de Bretonne et de la mission bretonne, elle a beaucoup, beaucoup de témoignages, énormément de témoignages de ce qui se passait, quoi, comment ça y pratiquait. Donc il y a même de quoi écrire un livre là-dessus.
Bah, il manque une biographie de l'abbé Cadic, qui est une figure assez surprenante.
Ah bah oui, cet intellectuel, licence d'histoire à l'époque, c'était déjà énorme. Et puis, licence d'histoire qui décide, qui est prof dans une école de jésuites à l'université de Paris, qui est originaire de Noyers-de-Pontivy, qui voit toute cette misère et qui décide avec l'aide de certains membres de l'élite bretonne à Paris et d'autres qui voient toute cette misère devant lui. Et lui, il crée la paroisse de Paris qui marche extrêmement bien jusqu'à sa mort, jusqu'à la Première Guerre mondiale. Je crois qu'il y avait plus de 20 000 adhérents à la paroisse de Bretonne. C'est énorme.
Et qui, en plus, se sert d'agence matrimoniale.
Oui, oui, ça aussi. Oui. Ah non, mais il faisait tout, hein.
Très polyvalent.
Social, totalement, culturel, puisque vous aviez Théodore Bottrell qui venait, Marc Saunier qui venait pour faire des conférences, le fondateur du Sillon.
Ce qui est drôle d'ailleurs, parce que Saunier et Bottrell ont des opinions politiques aux opposées l'une de l'autre.
Mais c'était pas grave.
Mais non, c'est ce qui est très intéressant, vous le disiez tout à l'heure, vous pouvez être rouge, vous pouvez être blanc, d'un seul coup le fait d'être breton vous réconcilie.
Oui. Et ça déplaisait à la hiérarchie ecclésiastique, évidemment. Et donc, l'abbé Cadic aurait dû être évêque, quoi, au minimum. Non. Mais en fait, jusqu'à la Première Guerre mondiale, et puis après la Première Guerre mondiale, les choses changent, même en Bretagne. On abandonne son costume breton, et on prend la casquette, et puis le costume trois pièces, en Bretagne comme à Paris, pour tous les Bretons, tout le monde le sait. Donc à partir de là, les choses s'écroulent de plus en plus. Et jusqu'en 1929, la paroisse bretonne fonctionne encore. Et en 1930, l'abbé Cadic meurt en 1929. Et en 1930, la paroisse de Bretonne n'existe plus, quoi. La paroisse bretonne, elle était tenue d'une main de fer et d'une main puissante, parce qu'il fallait faire. Hein. Vous imaginez,
j'imagine.
Des milliers. Ils faisaient tout.
Puis sans aide, pratiquement sans aide.
Oui. Non, il y avait quand même des membres de l'aristocratie et des gens importants qui faisaient de la charité, vous savez, et qui aidaient. Bien sûr, il y avait beaucoup de gens qui aidaient. Parce que,
oui, mais c'était une aide qui n'était pas officielle. Elle ne venait ni de la hiérarchie catholique, ni de l'État.
Non. C'était que des bénévoles. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui des bénévoles. Quoi.
Exactement.
Et donc, résultat, ça marchait très, très, très bien. Et en 1947, il y a la mission bretonne de Paris qui a suivi ce modèle. Mais de l'autre côté, la Bretagne, les Bretons rouges faisaient pareil, quoi.
Oui.
Mais sans curé.
Frédéric Morvan, cette émission touche malheureusement à sa fin. Pour conclure, on pourrait parler des heures, parce que le sujet est extraordinairement passionnant. L'exil des Bretons en région parisienne, un malheur ou une chance ?
C'était un malheur. Pour beaucoup de Bretons, c'était un malheur. C'était un déracinement. Ils étaient obligés de partir. Ils étaient trop nombreux à la ferme. Il y avait la belle-mère qui était trop gênante, qui était épouvantable, entre parenthèses. Donc il y a beaucoup de filles qui sont parties. Ils étaient quand même pas très bien traités. Beaucoup étaient sur le trottoir. Ils étaient nourrices, bonnes et puis jetées, avec des situations épouvantables. Mais aussi une chance, parce qu'une chance économique, parce que l'ascension sociale a été très très importante, une chance politique. S'il n'y avait pas eu les Bretons à Paris, on sait qu'à la libération, beaucoup de Bretons rouges se sont rebellés et ont participé à la libération de Paris.
Roll Tanguy, par exemple.
Bien sûr, c'est le plus célèbre. Et donc, au point de vue économique, on connaît la puissance maintenant de beaucoup, beaucoup de Bretons. Donc, Paris maintenant, sans les Bretons. Et pour finir, au point de vue culturel, il faut voir les activités très impressionnantes des Bretons de Paris, quoi. Glenmore, Alain Stivell, etc. Tous sont partis, maintenant, Leroy maintenant, mais tous sont connus à partir de Paris, quoi.
Oui, à l'origine, voilà. Ils sont aussi de Paris que leur carrière s'est faite.
Exactement.
Pas en Bretagne.
Exactement. Moins en Bretagne, quoi. Il faut dire la vérité, quoi. Et donc, moins en Bretagne. Ils ont commencé Tijos, et puis commencé. Bon, c'était déjà un peu connu, mais c'est Paris. Et on connaît même ça pour le monde de l'édition. Pareil, c'est Paris qui vous lance. Et puis, pour nous, les Bretons, vous adoubent, immédiatement, la Bretagne suit. C'est vrai que la Bretagne vous pousse, et puis Paris vous adoube, et puis hop, c'est parti. C'est une chance, au point de vue. Paris est une chance. Moi, je le dis tout le temps, Paris, c'est le 6e département breton.
Frédéric Morvan, je rappelle que vous avez publié aux éditions Ouest France un admirable ouvrage en collaboration avec Françoise Goaziou, Breton sur scène, magnifiquement illustré, 260 pages, 31 euros, qui est incontestablement le meilleur livre que j'ai lu sur la question et j'en ai lu quelques-uns. Merci encore infiniment et à bientôt, j'espère.
À bientôt.